Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.
Nous sommes le 30 novembre et nous allons parler aujourd'hui de plusieurs sujets. Le premier qui nous intéresse, eh bien, c'est la caserne des Vernets, pétition concernant un projet démesuré. Nous accueillons Marc Brune. Bonjour à toi, merci d'être parmi nous.
Salut.
Alors, tu es membre du comité du RPSL. On va immédiatement donner le site internet, c'est rpsl-ge.org et cet acronyme désigne le Rassemblement pour une politique sociale du logement. Vous êtes parmi les initiants de cette pétition, en compagnie de l'association des habitants, c'est ça,
hein ? Le collectif des habitants et habitantes de quartier.
Alors pour commencer, je vais juste peut-être lire le premier paragraphe qui me paraît extrêmement clair de cette pétition. Donc le titre c'est « Caserne des Vernets pour un projet à taille humaine ». Et voilà le texte. Le 28 février 2016, 69% des votants et des votantes de Genève disaient oui à la délocalisation de la caserne des Vernets, soutenant l'idée de construire des logements sur ce périmètre. Quelle aurait été la réponse des Genevois et des Genevois si ce projet ultra dense de deux énormes blocs fermés et de deux tours avait aussi été soumis en votation ? Nous disons non à ce projet du futur quartier des Vernets et demandons qu'il soit revu de toute urgence afin d'offrir un habitat à échelle humaine. Et nous refusons de léguer cette masse de béton aux générations futures, créant un modèle qui risque de s'étendre sur l'ensemble du territoire. Des alternatives existent. Nous demandons donc que tout soit mis en œuvre afin de, et là il y a trois points. Point 1, répondre à des critères de qualité de vie tant pour les habitants que pour les autres usagers. 2, créer des espaces publics généreux permettant une vie sociale. Et enfin, 3, préserver les arbres et offrir suffisamment d'espaces verts en pleine terre pour répondre aux enjeux climatiques, ombrage, circulation de l'air, etc. Je termine, ces terrains sont en main publique depuis le 15e siècle. En conséquence, nous demandons qu'un nouveau projet soit élaboré en respectant ces critères. Durant la période, et ça c'est important de le dire également, durant la période de gestation du nouveau projet, le site pourra être mise à disposition pour des logements pour étudiants et des activités associatives, culturelles et artistiques sur ce qui serait une friche, sur une friche industrielle par exemple. Voilà, dernière chose à dire, que c'est une pétition, que la particularité de la pétition c'est que toutes et tous peuvent la signer, indépendamment de l'origine,
de la nationalité et voilà, du lieu de résidence.
Et ça c'est important de le dire, et que cette pétition sera remise au Grand Conseil, au Conseil municipal de la ville de Genève. Ça tombe bien parce que les invités prochains qui sont là du POP, bah ça leur parle également j'imagine. Donc là il s'agit effectivement du législatif cantonal et municipal. Alors, on l'a dit, cette pétition elle est lancée et soutenue par le collectif d'associations d'habitants et de quartiers et le Rassemblement pour une politique sociale du logement. Alors, à quel moment est-ce que vous êtes ligué pour provoquer cette pétition ?
Eh bien, à vrai dire, l'opposition, notamment formulée par le collectif des habitants et des associations de quartier, remonte à plusieurs années. Ils ont fait des remarques quand il y a eu un concours international d'urbanisme. Puis après, ils ont fait des remarques quand il y a eu le concours d'architecture qui devait préciser les contours du projet. Et c'était des remarques qui ont été faites au département, un document notamment de 7 pages, ce qui n'empêche pas Anthony Hodgers de dire qu'il n'a jamais rien vu, aucune opposition de ceux qui maintenant font la pétition. Alors, cette pétition vient tard parce que l'autorisation de construire risque d'être délivrée dans des très brefs délais. Néanmoins, au vu des précisions que nous avions sur le projet, il a été décidé quand même de la lancer et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc le fait de dire que c'est trop tard maintenant, c'est un argument, mais c'est pas un argument suffisant pour nous. Et d'autre part, il faut tenir compte que se manifester aujourd'hui pour contre ce projet sur lequel on reviendra en détail, c'est aussi essayer d'éviter que d'autres projets du même type, voire pire, se perpétuent. Et ce qui est en train de se passer déjà d'ailleurs pour un autre périmètre de Praille Acacia Vernet, puisque la caserne des Vernets rentre dans cet immense périmètre destiné à être urbanisé de manière différente, qu'on appelle Praille Acacia Vernet. Mmh.
Alors, comme tu l'as dit, il n'est pas trop tard pour protester. Cette pétition, eh bien, on invite toutes et tous à la signer. Où est-ce qu'on la trouve ? Alors, notamment, je vois qu'il y a une adresse de contact qui est le collectif d'associations d'habitants et de quartiers via la maison de quartier de la Jonction.
Exactement, donc, peut-être préciser l'adresse, et la case postale, je ne sais pas.
Voilà, exactement, case postale 204 200 Genève 8, ça c'est pour la maison de quartier de la Jonction. Et puis nous, on la mettra, bien entendu, on mettra le PDF au libellé de ce podcast pour que les personnes puissent le télécharger. Les réactions des personnes que vous avez d'ores et déjà, j'imagine, accostées, quelles sont-elles? Parce qu'effectivement, là, on est dans une sorte d'absurdité qui va à l'encontre du sens de l'histoire, d'une certaine manière.
Voilà, alors, les réactions, en général, effectivement, quand les gens apprennent, disons, le type de densité, parce que ça on est au moment où les choses prennent forme. Le site du développeur du projet, qui est l'entreprise générale Losinger Marazzi, qui est en fait du groupe Bouygues, a produit des images qui évidemment cherchent à berner, mais malgré tout on voit que c'est très parlant, parce qu'on voit que c'est un projet hyper dense. Alors peut-être qu'il faut après aller un peu plus loin dans la description du projet. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu veux.
Absolument.
Voilà. Alors donc la caserne des Vernets, c'est un terrain sur lequel il y a aujourd'hui une caserne et quelques petits bâtiments, 108 arbres et qui jouxte 108 arbres donc et qui jouxte l'Arve et qui est situé en face de la grande patinoire de Genève. Alors sur ce terrain, il est bien évident que nous sommes d'accord qu'il y ait des logements qui soient construits. Il y a une pénurie de logements à Genève criante, et notamment de logements bon marché, voire très bon marché. Donc c'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est le type de projet. Alors ce qui est formé de deux grands îlots fermés de 33 mètres de haut. Je rappelle qu'en général, les immeubles à Genève font de 21 et 24 mètres. Et en plus, il y a une tour de 86 mètres, côté Arve, et côté du bâtiment Rolex, du siège historique de Rolex, il y a un bâtiment de 51 mètres, qui est un bâtiment, on appelait au début, que les promoteurs du projet ont appelé un hôtel industriel. Maintenant, on parle de bâtiment d'activité. Ça finira sans doute en bâtiment de bureau. Mais peu importe, disons, sur ce terrain qui, je le rappelle, comme la plupart des terrains du PAV, 86% du PAV appartient à l'État. Sur ce terrain, on va de nouveau faire soit des bureaux, soit des activités proches de bureaux dans un site industriel et commercial dans lequel il y a plein de place pour faire du bureau. Donc sur le site de la caserne, qui est bien placé, on ne devait faire, à notre avis, que du logement et avec une densité inférieure.
Et également avec des espaces verts, parce que vous le dites, et on va rappeler que les 86 mètres dont tu parles pour la tour de logement, et vous le dites très bien dans la pétition, ça signifie 22 mètres de plus que la tour de la TSR.
La TSR avec l'antenne.
Avec l'antenne, voilà, pour que les gens comprennent l'ordre de grandeur. Oui. C'est un truc incroyable. Et, voilà.
Et le bâtiment qui est, bâtiment d'activité, qui est proche de Rolex, fait 51 mètres, ce qui est l'équivalent de la tour de Rolex. Mais il est beaucoup plus massif que la tour de Rolex, qui est sur le même juste à côté.
Comment expliques-tu qu'un tel projet puisse surgir de cette manière-là, alors que justement on sent bien que ce dont on a besoin, en tout cas intuitivement, sans même avoir de données techniques, on sent bien que voilà, il y a ce réchauffement, il y a des îlots de chaleur terribles, et que là on est vraiment à l'inverse du bon sens.
Oui, en fait c'est une histoire relativement vieille, c'est-à-dire qui date des années 2000. Les architectes et les urbanistes à Genève, les associations ont longtemps dit qu'il fallait faire quelque chose à la Praille, il fallait que ça devienne un petit Manhattan. D'autre part, l'État était désireux de rentabiliser au mieux ces terrains, et on a fixé des densités. Le terme densité en réalité n'est pas juste, c'est un terme qu'on applique en géographie, c'est le nombre d'habitants par hectare, mais on l'utilise communément comme étant, disons, la surface construite, la densité de mètres carrés de surface construite. Et cette densité a été fixée au départ, et puis après, on a fait un concours d'urbanisme et un concours d'architecture. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un urbanisme de tableau Excel, c'est-à-dire qu'on définit au départ des exigences en termes de mètres carrés, on définit des exigences financières. Dans les exigences financières qui vont se répercuter sur les locataires, il y a le déplacement de la caserne, car sinon il aurait fallu attendre 2044, je crois, pour que la caserne parte d'elle-même. Donc c'est 76 millions qui sont à la charge de l'État, ce qui peut paraître une somme importante, mais qui n'est pas si significative en fait. Et on définit ces critères-là, et après on demande aux urbanistes et aux architectes de travailler sans aucune vérification préalable. Donc tout en sachant que c'était une densité importante. Mais en se disant, ben on a des urbanistes et des architectes de talent, ils vont nous faire quelque chose de bien. Évidemment, les architectes et les urbanistes trouvent toujours que ce qu'ils font est bien, mais le c'est pas tout à fait l'opinion de la majorité de la population.
Oui. Peut-être tu nous préciserais de quelle position vous parlez au sein justement du Rassemblement pour une politique sociale du logement, puisque on l'a dit tout à l'heure, ça n'est pas à proprement parler une association, mais une fêtière d'associations qui contient notamment la SLOCA et d'autres entités.
Alors le Rassemblement a été créé il y a une cinquantaine d'années et il regroupe les associations de défense des locataires, les partis de gauche, les syndicats et des associations caritatives type Centre Social Protestant et Caritas. Et le mouvement populaire des familles, etc., etc. Donc c'est un regroupement d'associations, d'où le terme rassemblement, et dont l'objectif a été, disons, de faire un groupe de pression pour un développement du logement social. C'est notamment le rassemblement qui a lancé dans les années 90 une initiative pour qu'on construise 3000 HBM, qui sont les logements bon marché, qui restent en main de l'État et des collectivités publiques. Et à l'époque, on construisait très très peu de HBM et où la majorité des logements subventionnés étaient des logements HLM qui ne restent subventionnés que 20 à 25 ans et qui après retournent dans le marché libre.
Au sein de justement du rassemblement, y a-t-il également des architectes, des urbanistes, des sociologues peut-être qui s'interrogeraient sur les conséquences que pourrait avoir un tel projet? Je pense également effectivement aux écoles, aux déplacements aux flux de population, aux espaces de délassement, aux espaces verts, etc.
Non, à vrai dire, c'est pas un regroupement. Comme c'est un regroupement d'associations, de partis et de syndicats, il n'y a pas une spécificité professionnelle. Mais nous sommes quelques professionnels. De toute façon, je dirais que dans le cas précis, comme dans d'autres cas, il n'est pas très très difficile de se faire une idée quand on voit le résultat, soit au niveau de l'architecture, soit au niveau de l'urbanisme. Donc, il n'y a pas de spécificité. Par contre, si maintenant on s'attache au projet, on voit qu'effectivement, toute une série de critères minimum d'urbanisation et d'architecture ne sont pas réunis. Alors, c'est effectivement l'espace public. L'espace public est extrêmement réduit. Il est toujours pris entre des bâtiments qui oscillent donc entre 33 mètres, 51 mètres ou 86 mètres. Il faut savoir que, par exemple, l'école et la ville de Genève s'est battue pour avoir le terrain adéquat pour une école de 16 classes, mais il est adéquat en termes de surface, mais il n'est pas du tout adéquat en termes d'implantation, puisqu'il est coincé entre un bâtiment au sud qui va lui faire de l'ombre en permanence de 33 mètres et au nord un bâtiment de 86 mètres. On est là avec quelque chose qui n'est ni fait ni à faire, enfin, on verra.
Ouais. Et il y a la question de l'attribution potentielle de ce chantier-là, une filière de Bouygues.
Oui, alors
on peut se poser la question.
Oui, c'est le nouveau mode de faire maintenant. On délègue ça à des promoteurs. Ils ont agi assez intelligemment d'un certain point de vue, puisqu'ils se sont associés avec la CODA, la CIGU, la CPEG, qui est la Caisse de pension de l'État, des sociétés coopératives et d'autres intervenants, dont Swiss Re, qui est une compagnie d'assurance vie de la Confédération, qui va faire la tour. Et voilà, donc là, en termes, si on veut, de maîtrise d'ouvrage, ça paraît tout à fait intéressant et cohérent. De notre point de vue, la ville de Genève d'ailleurs aussi, puisque une partie du programme est réservée à la fondation du logement social de la ville de Genève. Mais d'une part, il y a quand même une part importante de logements qui sont des logements, libres, puisqu'ils sont tenus par des caisses de pension du deuxième pilier qui doivent néanmoins obéir à des critères de rentabilité. Et d'autre part, les conditions de mettre la caserne à la charge des locataires et d'imposer une densité de ce type-là va induire des coûts supplémentaires, parce que inévitablement ça va faire des coûts supplémentaires, mais également des conditions de vie et d'habitat, parce qu'on y reviendra en ce qui concerne les logements proprement dits, qui sont très mauvaises. Donc c'est une opération qui apparaît intelligemment menée, mais qui en réalité est l'opération à ne pas faire par excellence.
Alors voilà, tu évoques les conditions de vie qui, selon toi, selon vous, seraient également problématiques.
Oui, parce que ces îlots complètement fermés, pour avoir une idée, je peux donner un exemple qui est peu connu, mais que tout le monde a certainement vu au moins une fois. C'est ce qu'on appelle l'îlot du Mont-Blanc, le square du Mont-Blanc, qui est côté gare, mais au sortir du pont du Mont-Blanc. et qui est un îlot fermé du 19e siècle. Mais en réalité, cet îlot, il est un tiers plus grand que ceux qui vont être faits, et les bâtiments font 20 mètres ou 21 mètres, et pas les 33 mètres qu'on a ici. Donc toutes les ombres portées, le soleil qui est caché par la hauteur des bâtiments, que ce soit à l'est le matin, au sud l'après-midi et à l'ouest le soir, bien, toutes ces ombres portées vont être considérables. Et en plus, ces squares, qui sont donc plus petits que le square du Mont-Blanc, sont situés sur une dalle de parking. Donc inutile de dire qu'il est impossible de faire pousser des arbres, disons, significatifs. Et en plus, c'est un espace complètement clos. Il y a quelques entrées à gauche, à droite, mais l'air ne circule pas à l'intérieur. Et on a là un espace, disons, fermé, dans lequel en plus les échos, le bruit, etc., peut devenir réellement gênant. S'ajoute le fait que les logements, compte tenu qu'il s'agit d'immeubles très profonds, la taille habituelle des immeubles à Genève, c'est 15-16 mètres de profond. Certains disent de largeur, mais disons, on parle de profondeur quand on passe d'une façade à l'autre façade. Et là, les bâtiments font entre 20 et 21 mètres. Donc, résultat, les architectes ont fait des bâtiments, des logements qui sont monorientés, c'est-à-dire orientés d'un seul côté, soit sur la cour, soit sur les rues, soit au nord, soit au sud. Donc toute la ventilation naturelle qu'on peut avoir dans un bâtiment où on peut ouvrir les façades, les fenêtres d'un côté et ouvrir de l'autre et avoir la circulation de l'air, là, tout ça n'existe pas, avec les rares logements traversants qui sont du coup une pièce qui est le séjour, cuisine, qui est traversant, qui est très étroit, très allongé, et donc pas très intéressant de ce point de vue.
Ouais. Alors, que répondez-vous, question obligée, aux personnes qui disent « Oui, mais c'est la crise du logement à Genève, on a besoin que les gens puissent habiter. Alors, est-ce que peut-être que ces conditions de vie, eh bien, il va falloir d'une certaine manière se serrer la ceinture là également et puis renoncer à un certain confort en disant ben, « Il nous faut le nombre, quoi. »
Oui. Alors, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on fait des réalisations de ce type, on parle en termes de siècles. Aujourd'hui, les bâtiments du 19e siècle, des 1850, 1880, il y en a plein en ville qui sont habités, souvent à satisfaction des locataires d'ailleurs. Et donc là, il faut voir le long terme. Alors, la crise du logement existe, c'est vrai, mais maintenant, nous postulons qu'il faut un aménagement du territoire plus équilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas densifier de manière désastreuse en ville, au détriment des habitants sur place, mais au détriment des qualités de la vie en ville en général, et puis qu'on pourrait rééquilibrer ça par un développement un peu plus accentué dans d'autres secteurs en périphérie, par exemple le plateau de Verrier, etc. Alors le conseiller d'État dit oui, mais alors ça veut dire qu'on va donc je parle d'Anthony Hodgers, qu'on va multiplier les déplacements, qu'on a des gens qui vont venir, au lieu de venir en ville, et de rester en ville, ils vont se déplacer. Mais là, c'est un peu un faux débat, parce que c'est pas parce qu'on habite au centre-ville, et par exemple à la caserne des Vernets, que l'on va travailler juste à côté. On peut très bien travailler dans la zone de Mérin-Satigny, aller travailler à Nyon, etc., etc. Donc les déplacements, de toute façon, ils existent. Après, la question est, comment on les gère? Il faut un système de transport public efficace et bon marché, voire gratuit. Donc l'objectif, il est de développer les transports de manière efficace et aussi de diminuer le taux de parkage, de diminuer l'accessibilité des voitures un peu partout, mais notamment dans le centre.
Alors, cette pétition, elle est à signer urgemment la caserne des Vernets pour un projet à taille humaine et elle est à retourner avant d'ici au 20 décembre, de nouveau, on le répète, donc à la maison de quartier de la Jonction, case postale 204, 1200 Genève 8. Qu'en est-il actuellement? Est-ce que tu sais déjà si ça signe pas mal? Comment, où est-ce qu'on en est?
Alors, je sais que ça signe pas mal, mais disons que les forces pour récolter des signatures sont limitées. Donc, j'encourage toutes les personnes à non seulement la signer, mais à la faire signer autour d'elle. Il y a une image sur la pétition qui est une image d'une maquette que la ville de Genève a faite, qui n'est pas totalement exacte, sur les détails, mais qui donne bien le sens de ce projet. Il faut le comparer à des bâtiments qu'on voit à côté sur cette photo de maquette, ou qui sont les bâtiments qui de taille habituelle d'une vingtaine de mètres, comparés aux 33, 51 et 86 mètres. Oui, là, il s'agit vraiment de blocs.
Oui, et puis on voit d'ailleurs sur cette image, on voit la tour de la TSR et elles sont petites. à comparer avec cette tour et puis même à l'ensemble, et comme tu l'as dit, cet ensemble un peu fermé, enfin pas un peu, complètement fermé. Alors c'est le temps maintenant de la pétition, et puis ensuite on espère qu'il sera temps d'un contre-projet ou de... Comment ça va se passer? Est-ce que cette question-là vous habite-t-elle déjà?
Bien sûr, mais le contre-projet, c'est tout un travail, c'est un travail très important. À vrai dire, on en a fait un très très rapidement sur la base du projet existant, en montrant qu'en ouvrant les îlots sans qu'il y ait des parties, des angles fermés, même sans que certaines parties soient construites, en remplaçant le bâtiment d'activité par des bâtiments de logement, on arrivait à faire un projet très satisfaisant à première vue, c'est une esquisse, avec la moitié de logements. C'est-à-dire que actuellement sont prévus 1200 logements plus 300 logements étudiants. Le logement étudiant est un peu une spécificité, parce qu'évidemment que chaque étudiant ne possède pas un appartement, mais qu'il se partage. Donc on peut dire quand même que c'est environ 4000 personnes qui vont vivre là. Eh bien, on pense qu'on pourrait arriver sans problème à la moitié, voire un peu plus, parce qu'il faudrait retravailler le projet. Mais comment les choses vont-elles se passer maintenant? Eh bien, nous allons essayer de faire une opposition à l'autorisation de construire. Alors, c'est toujours un peu problématique de dire qu'il y a des logements qui doivent être construits, on s'oppose à la construction de logements. Mais dans le cas précis, je pense que, vu la taille du projet et les conséquences qu'il a, vu les conditions dans lesquelles il se fait, soit en termes d'urbanisme, de circulation aussi, de manque d'espace vert, il n'y a pas une seule place publique, les arbres sont tous coupés et ne sont pas remplacés, je crois que là, l'explication pourra se faire assez facilement. Et de toute façon, elle sera bénéfique. Notre objectif, encore une fois, n'est pas de s'opposer à la construction de logements, mais à une surdensification.
Absolument. La population, j'imagine qu'elle est assez sensible à ce que vous dites là. Qu'en est-il de la part des politiques? Y en a-t-il déjà que vous avez interpellé et puis dont on sent que les réactions sont plutôt positives et de collaboration?
Alors, je ne sais pas quelle est la position officielle du Parti Socialiste Genevois qui s'est prononcé sur cette pétition jeudi soir. Je sais que les partis de gauche la soutiennent normalement plus à gauche que le PS. Les Verts, je n'en sais rien. Ils sont évidemment gênés aux entournures parce que ce projet est porté et défendu par le conseiller d'État Antonio Gers, qui lui-même dit « Je suis prêt à discuter. J'ai toujours été prêt à discuter. Par exemple, comment on va occuper les toitures ?» Non mais franchement, c'est pas sérieux.
C'est un peu cosmétique ça. Hein.
C'est plus que cosmétique. On parle d'espace public au sol, à destination des habitants. On parle d'architecture bioclimatique. On nous dit « On va pouvoir discuter de ce qu'on met sur le toit à 33 mètres, ou à 51 mètres, ou même à 86 mètres. » Franchement, c'est pas sérieux. Et maintenant, si Antonio Gers veut vraiment faire un débat sur la croissance, il doit maintenant, se confronter, lui, à ses engagements, en tant qu'il pourrait être quand même quelqu'un qui défend l'architecture bioclimatique, qui défend un urbanisme au service des habitants. Et c'est manifestement parce qu'il est en train de faire.
Selon toi et selon vous, la position peut-être justement du Rassemblement pour une politique sociale du logement, y aurait-il la matière à ce qu'une réflexion globale plus essentielle se tienne et que ce projet pourrait peut-être initier cette réflexion fondamentale avec vraiment l'ensemble de partenaires sociaux et justement une discussion extrêmement ouverte et critique sur qu'est-ce qu'on va faire de Genève, parce qu'effectivement on a cette question de la surdensification, elle se pose là et ailleurs. On est dans des périodes un petit peu compliquées par rapport à ça, avec des déclassements de terrain, etc., etc. Peut-être même des situations où un petit peu occultes, j'ai envie de dire, où on ne sait pas quels intérêts sont au service de qui. Et voilà, est-ce que ça pourrait être selon toi le lieu, l'espace, le temps d'assises sur l'urbanisation, des choses comme ça?
C'est difficile parce que le Rassemblement rassemble un nombre significatif d'organisations, comme je l'ai dit, mais en même temps, il n'a pas une très grande puissance d'action. Alors, il va fêter bientôt les 50 ans de sa fondation. Il va faire une discussion, je pense, une journée de discussion, une demi-journée de discussion. Sur quel thème, nous ne savons pas encore. Mais cette question, disons, de l'architecture, de l'urbanisme aujourd'hui, du développement urbain, de la, où est-ce qu'on construit des logements, quel type de logement il faut construire, c'est une réflexion qui doit dépasser le cadre du rassemblement. Et il faut maintenant qu'effectivement, au sein des partis, lié aussi aux refus qui ont eu lieu, pour lesquels le Rassemblement n'est pas toujours, disons, partisan de certains plans d'aménagement, mais en soutien d'autres. Donc, nous avons toujours une position relativement nuancée. Mais maintenant, on voit qu'il y a, un rejet du type de densification proposée. Et c'est l'ensemble des partis et des associations, des collectifs d'associations de quartier, de prendre cette réflexion en charge, et nous essayerons d'y contribuer autant que possible.
Mmh. Alors on arrive justement au terme de cet entretien. Si les personnes souhaitent poser des questions, eh bien le temps est venu. Et en attendant, eh bien pourrait-on également imaginer que l'on prenne exemple de certaines pratiques qui ont déjà cours. Nous sommes ici donc au Charmy, pas loin de nous, il y a Soubéran, numéro 7 de Soubéran, qui effectivement a des postures et des pratiques intéressantes quant au logement et aux utilisations des différents espaces. Ça pourrait être également justement des ressources assez intéressantes.
Ah, tout à fait. L'exemple de Soubéran est un excellent exemple. Et je dirais que l'exemple des Charmilles était typiquement un contre-exemple. C'est un projet que nous avons combattu il y a une vingtaine d'années, qui avait été initié par Christian Grobet pour, sauver, entre guillemets, l'entreprise Charmilles, notamment. Mmh. C'est des logements qui sont très profonds, mais pas aussi profond que ceux qu'on va faire à la caserne des Vernets, qui sont très bas d'étage, qui finalement ont produit des logements chers, parce que lorsqu'ils sortent du régime HLM, ils restent chers. Et même à la fin du régime HLM, ils étaient relativement onéreux, parce qu'on a là ouvert également la porte au fait de dépasser les plafonds qui étaient habituellement acceptés à l'époque en ce qui concerne le niveau des loyers. Donc c'est le type d'exemple qu'il faut refuser. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a au moins quelques petits espaces, notamment en face du bâtiment bas qui est dans le périmètre des Charmilles, chose qu'on ne trouvera pas. Ce petit gain urbanistique, on ne le trouvera pas à la caserne des Vernets et dans d'autres périmètres du PAF qui sont encore plus denses que ceux de la caserne.
Là, on peut dire qu'il y a des défis majeurs concernant le type de logement et le logement en soi, tout cas pour Genève.
Mmh, tout à fait.
D'accord. Alors, on va rappeler, la pétition, elle s'appelle « Caserne des Vernets pour un projet à taille humaine ». La pétition, elle sera disponible, comme on l'a dit, sur au libellé de ce podcast. Elle également... Alors, moi, je ne l'ai pas trouvé sur le site dont on va rappeler l'adresse, hein, rpsl-ge.org. Donc, c'est le site pour le rassemblement pour une politique sociale du logement. Mais elle doit certainement y être.
Oui, je pense que je vais faire de manière... Je vais essayer de faire à ce qu'elle soit mise sur le site mardi prochain.
Très bien. Et puis, à retourner, donc là, il y a quand même une urgence, à retourner d'ici au 20 décembre, donc à la maison quartier des Jonctions, de la Jonction, pardon, case postale 204 1200 Genève 8. Voilà, s'il fallait formuler un ou deux appels, lesquels seraient-ils ? Eh bien, déjà, signez cette pétition, faites-la signer également. On va pouvoir l'imprimer très facilement dès ce soir. Quoi d'autre ?
Bien, je pense que à un moment ou un autre, il faudra organiser une manifestation en face du terrain de la caserne des Vernets. Et ceux qui auront compris l'enjeu, eh bien évidemment, on souhaite qu'ils soient présents.
Marc Brune, merci beaucoup. Des questions surgiraient-elles ou on a relativement fait le tour pour cette fois-ci, sachant que nous nous retrouverons certainement un petit peu plus loin pour continuer d'en parler. Marc Brune, merci beaucoup. Bonne continuation.